traversée, Rimbaud en mille morceaux. Produit et réalisé par Jean-Michel Djian et Charlotte Roux.
Il est un mage conscient de sa tâche à cet âge où d'ordinaire, l'homme à peine échappé de son enfance ignore encore tout du monde réel et de lui-même.
Le mythe d'Arthur Rimbaud n'en finit pas aujourd'hui encore de féconder. Si l'on s'arrache cependant plus facilement sa mémoire que son œuvre, le poète, lui, continue d'illuminer. Les écrivains, certes, mais aussi et surtout ceux et celles que l'esprit de révolte tenaille et encanaille. Le voyant des Ardennes serait-il un extraterrestre, un monstre, une icône indépassable ? 160 ans après sa naissance, Rimbaud semble en effet se dérober, fuir, nous échapper, tellement son mystère nous dépasse. L'auteur capable d'avoir écrit à 19 ans ses chefs-d'œuvre que sont Une saison en enfer et Les Illuminations est depuis plus d'un siècle devenu une proie à tous les fantasmes. Mais alors, qui est ce compagnon incertain de Verlaine qui ne voulait rien publier ? Était-ce un génie, un voyou, un explorateur, un commerçant ou un mystique ? Qui est celui qui, à 27 ans, décide d'en finir avec la poésie pour aller jusqu'au terme de sa courte vie, commercer outrageusement dans la corne de l'Afrique ? En recherchant dans les archives sonores du XXe siècle tout ce qui compte de témoignages rares et méconnus de Rimbaldiens notoires, en les mêlant à des voix contemporaines d'artistes, de comédiens ou d'écrivains qui se réclament du voleur de feu, préparez-vous à vivre une semaine d'enfer avec l'un des plus grands poètes que le monde nous ait offert, Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, premier volet, le génie.
Rien de banal ne germait dans cette tête, écrivait le principal du lycée de Charleville. Ce sera le génie du mal ou celui du bien.
Philippe Besson, en quoi un Rimbaud est-il un génie ?
Parce qu'il est inégalable, parce que rien de ce qu'il a fait n'avait été fait avant. Que rien de ce qu'il a fait n'a été fait après, qu'il est unique et que nous ne pouvons pas comprendre ce qui est à l'œuvre.
Arthur est d'abord et avant tout un précoce. À l'école, dans ses lectures, dans son écriture comme dans l'apprentissage des langues mortes ou rares, Rimbaud apprend tout avant tout le monde. La montée en puissance de sa verve poétique commence dans les années 1860 pour se conclure vers 1874. Il a alors 20 ans. Et voilà que grâce à Verlaine, son œuvre féconde. Contre son gré, contre la société, contre la poésie même. C'est l'histoire incroyable d'un destin littéraire consacré, récupéré, perpétué, et qui, malgré sa brièveté, continue aujourd'hui encore d'être interrogé. Ou comment la poésie a-t-elle pu cristalliser à ce point l'imaginaire prolifique d'un adolescent et consacrer sa postérité à partir d'une vie et d'une œuvre aussi courte, si dense soit-elle.
Quand je regarde le génie de Rimbaud, je vois que tout y est voulu, volontaire et délibéré.
Stanislas Fumé, 1966.
C'est un homme qui n'a rien à voir avec les autres poètes. C'est du génie à l'état pur, c'est de la conscience brute. C'est quelque chose qui était plus fort que lui, n'est-ce pas ? Et il ne pouvait pas ne pas faire ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas écrire autrement. Ça, c'est l'enfant,
oui, ça, c'est
l'innocence, l'innocence qui va jusqu'au bout de son être.
Yves Simon, en quoi un Rimbaud est-il un génie ?
Qu'est-ce qu'un génie ? Rimbaud, je crois, il y a deux choses liées à lui. C'est la jeunesse, sa jeunesse, puis la jeunesse, évidemment, qui le lie un siècle plus tard, 50 ans plus tard, 20 ans plus tard, mais sa jeunesse. C'est-à-dire, il a... Entre 17 et 20 ans, hein, c'est pas plus, hein. Tout le monde le sait, c'est 4 ans, quoi, 3 ans et demi même, où il écrit Une saison en enfer, qui est le dernier grand écrit de Rimbaud. Quand on lit ça, on est médusé. Même la lettre qu'il écrit pour la première fois à Verlaine, c'est une lettre déjà d'une prose exceptionnelle pour un garçon de 17 ans. Et il lui envoie des poèmes. Et alors, c'est cette coïncidence ou concomitance, on pourrait dire, de l'écriture, la maturité de l'écriture, avec son âge. comment ce garçon, en plus il n'est pas à Sciences Po, hein, il n'est pas à Louis le Grand, il n'est pas dans les grands lycées parisiens, il écrit de Charleville. Vous savez que Victor Hugo a dit c'est un Shakespeare enfant en parlant de Rimbaud.
Rimbaud, oh ben,
Fabrice Lucchini.
Fulgurance, prophétie, génie, rupture avec la littérature. Allez, citons Mallarmé, un passant considérable. Mais si vous m'entendiez, Rimbaud, bon, Rimbaud, c'est juste trop, hein.
S'attaquer à Rimbaud aujourd'hui,
c'est impossible. Personne ne tient parce que personne ne comprend rien. On peut comprendre, mais moi je vous mets au défi.
C'est difficile.
Oui. Commencez mon spectacle par le bateau ivre, et je vous parle que quatre vers les plus simples. Je dis n'importe lesquels. Ou teignant tout à coup des bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermente les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreur mystique, illuminant de longs figements violets. Pareil à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin, leurs frissons de volets.
Comment on peut écrire ça à 17 ans?
Là, le mystère Rimbaud. De 14 à 16 ans et demi, on se dit... Il est totalement en avance, il est complètement pas littéraire, et il écrit à 15 ans, à l'été fort déshabillé, de grands arbres indiscrets, aux vitres jetaient leurs feuillets malignement, tout près. Tous ces poèmes de 14 à 16 ans, ce qu'on appelle toute la période de Douai, c'est-à-dire Sensations, Les réparties de Nina... On peut se dire que là, c'est de la poésie compréhensible, sensuelle, d'un adolescent qui est complètement en avance et qui va faire une rupture avec le côté littéraire. Et puis, mais après, la charnière, je la mettrais dans les assis. Il a quand même à peine 17 ans et il décrit les bibliothécaires dans des termes qui sont, ça y est, là, il est parti ailleurs. Personne ne peut... C'est des émissions de dizaines d'heures pour... se confronter au mystère Rimbaud. Je pense qu'un des éléments, c'est l'absence de séduction et de... Il n'y a aucun effort pour être compris. Il n'y a aucun lien hystérique de séduction avec son lecteur. Jusqu'à 16 ans, ça va. Par les soirs bleus d'été, il a 14 ans quand il écrit quand même. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers picotés, par les blés foulés, l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Il a 14 ans, c'est mignon, c'est... Ah, puis après, l'arrogance absolue, il n'a pas du tout envie d'être compris, il n'a rien à foutre. La phrase de Nietzsche, il y a des gens qui écrivent pour être compris, moi j'écris pour tenir à distance. En tout cas, Rimbaud a quelque chose. Autant chez Baudelaire, tout est arrondi, tout est compréhensible. Alors, après La saison en enfer, bon, elle est accessible. Et encore, j'aimerais bien me confronter à des grands spécialistes de Rimbaud sur l'alchimie du verbe. Quelqu'un qui commence par « Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?« Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes. » Dessus de porte, décor, toile de saltimbanque, enseigne, enluminure populaire, la littérature démodée, latin d'église, livre érotique sans orthographe, roman de nos aïeuls, conte de fées, petit livre de l'enfance, opéra vieux, refrain niais, rythme naïf, je rêvais croisade. Qu'est-ce que ça veut dire ?
sale pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant, en rubanée.
Yanni Hureau, vous êtes auteur d'un ouvrage qui fait date dans l'histoire de Rimbaud, tout simplement parce que vous avez eu un parti pris, qui est de définir un Rimbaud ardennais. Et c'est ce Rimbaud-là que nous allons évoquer maintenant, ici même à Charleville-Mézières, en votre présence.
Oui, soyons clairs, il est bien certain que Rimbaud est une comète. Mais effectivement, l'homme aux semelles de vent, je me suis évertué à le chausser de chaussures ordinaires et même de sabots de paysan. Alors ici, on est au cœur de Charleville-Mézières, de Charleville plus précisément, en bord de Meuse, et on est en même temps au cœur battant de la Rimbaldie, puisque c'est ici qu'il y a bien sûr le musée Rimbaud, mais qu'il y a aussi la maison où Rimbaud a vécu adolescent, et où il a promené ses rancœurs, ses rêves, ses détresses, et surtout, je crois, ce qu'il caractérise fondamentalement, deux choses, l'ennui, et aussi d'être en permanence malheureux. Alors, il faut, vos auditeurs qui viendront en pèlerinage à Charleville, je me permets de leur dire, bien sûr, de marcher sur les pas de Rimbaud, mais il faut qu'ils comprennent que Charleville qu'Arthur a connu n'a pas grand-chose à voir avec Charleville d'aujourd'hui. Alors bien sûr, c'était une ville avec cette merveille qu'est la place du Cal, bien sûr, c'est une petite ville de province, bien sûr, il y a le charme de la Meuse, mais il y avait tout autre chose que Rimbaud a connu, et notamment là où nous sommes, près de la maison où il a vécu, et près du musée Rimbaud, il y avait... Aujourd'hui, si vous y promenez, vos auditeurs s'y promènent, ils vont trouver la poésie du lieu, la Meuse charmante, la Meuse envoûtante, tout ce site qui ne pouvait qu'appeler la poésie de Rimbaud. Permettez-moi de dire que s'ils avaient connu le Charleville de Rimbaud, c'était rien à voir. Mais un détail, près du musée où nous sommes, ce beau musée qui était un vieux moulin, il y avait un abattoir. Il y avait un abattoir qu'on a supprimé d'ailleurs peu de temps après la mort de Rimbaud, mais ça n'a aucun rapport, parce que les riverains en avaient marre, que de temps en temps un bœuf s'échappait avant d'être égorgé. On avait marre aussi de cette Meuse que vous voyez aujourd'hui poétique, qui était gorgée de sang, gorgée aussi des entrailles, des viscères, des bêtes qu'on avait massacrées. Donc Rimbaud se promenait là. Jamais dit que ça explique une saison en enfer, mais il faut comprendre ça. Également, tout ce qu'est Rimbaud aujourd'hui, où ne passe plus que des automobiles, ce qu'est Rimbaud, il y avait une multitude de petites échoppes, mais il y avait aussi, surtout, des ferronneries, des brosseries, des clouteries. Et il y avait, en plus de la puanteur de l'abattoir, il y avait les tanneries. Et la Meuse, qui aujourd'hui somnole, c'était des quais au bord d'un port fluvial. Un port fluvial, bon, bien sûr, pas considérable, mais il y avait quand même des bateaux, il y avait une batellerie. Et il y avait aussi ce qui a bercé l'enfance de Rimbaud, et c'était sa première évasion. Vous voyez, là, tout près où nous sommes, il y avait les barques des tanneurs. Et un des premiers actes de révolte qu'il a commis, et que Delahaye raconte merveilleusement, vous savez, il faut accorder de l'importance à Delahaye, que nombre de Rimbaldiens considèrent un peu comme du menu fretin. J'aime beaucoup ce témoignage d'un camarade de classe. C'est considérable à mes yeux. Et Ernest raconte que Rimbaud, c'était un de ses premiers actes, alors qu'il était à l'école presque primaire, enfin au début du collège, ou même à l'école primaire, on ne disait pas l'école primaire à l'époque, c'était l'institution Rossin, et qu'il n'avait pas le droit de quitter un parcours défini par sa mère, avec son frère, ils ont sauté dans la barque du tanneur, qui était heureusement arrimée. Mais voyez, c'est tout un univers. On est là vraiment au cœur de ce Charleville qui a beaucoup marqué Rimbaud.
Vous parliez de la présence de son ami à l'école, Ernest Delahaye. Est-ce que vous pensez-vous que adolescent, disons même pré-adolescent, c'était d'abord lui qui avait senti l'étoile de Rimbaud, le petit génie, la pépite Rimbaud, le caractère très très anormal d'Arthur Rimbaud?
Disons que Delahaye a perçu une première chose, c'est que Rimbaud était un élève brillant. On peut dire un élève génial au sens où il y a des scènes d'anthologie, quand il prépare l'équivalent du concours général, fait ça à toute vitesse, bon, il est brillant en latin. Et en même temps, je crois, peut-être au risque de vous surprendre, que la première personne, en dehors bien sûr de Verlaine, qui a perçu le génie de Rimbaud, c'est peut-être sa mère. Elle qui va l'aider à être éditée, qui a compris qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire et en même temps quelque chose de terrifiant.
Vous dites, c'est important, puisque ce n'est pas partagé par beaucoup de Rimbaldiens, du rôle positif de la mère. Mais en même temps, c'est cette même mère qui allait voir le professeur pour lui dire « Mais pourquoi doit-il lire Victor Hugo, Les Misérables ?» Voilà. Donc il y a une explication peut-être à donner sur la perception du génie de Rimbaud par sa mère et la réalité du quotidien qui semblait assez violent de part et d'autre.
Alors là, je répondrais qu'il faut replacer la Mazère, Madame Rimbaud, dans son époque. Ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'après mai 68, pour parler un peu sottement. Madame Rimbaud était, et moi ça m'a aidé dans ma démarche, était comme ma grand-mère était. Une paysanne qui avait, ne l'oubliez pas non plus, oh, cagotte, l'expression me semble un peu excessive, qui était fervente chrétienne comme beaucoup de paysans, de paysannes l'étaient à l'époque et comme la bourgeoisie, pour mal parler, carlopolitaine l'était. Donc ses références, ses valeurs, son adresse envers la morale ne sont pas ce que c'est aujourd'hui. Vous savez, Madame Rimbaud, rendez-vous compte de cette chose, de ce texte magnifique qu'est la lettre qu'elle écrit à Verlaine. Elle a tout à fait compris à la fois le génie de son fils, également ce qui est aujourd'hui quelque chose de banalisé, mais les relations que vous savez avec Verlaine à l'époque, vous imaginez l'acte de révolte que ça représentait, est-ce que ça représentait pour elle, et en même temps sa tolérance envers ça. Comme elle écrit à Verlaine, mais des mots tendres, elle lui dit qu'elle comprend qu'il souffre, et que, ma foi, toute souffrance avec l'aide de Dieu peut s'estomper, mais elle témoigne de sa compassion. C'est pas admirable ça? Et en même temps, il y a une autre relation tout à fait surprenante là où nous sommes. C'est que Rimbaud n'a jamais pu se passer de revenir ici. Dans une lettre que Gracq m'a envoyée, Gracq parle d'un filin. Rimbaud est au bout du monde. Du moins du monde de l'époque. Il faut qu'il revienne ici. Il écrit à sa maman. Il ne peut pas s'en passer. Il y a cette relation ambiguë, permanente.
C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il était tendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Deux cartes postales. Celle de Charleville en 1850-54.
Alain Borère, 1977.
Une ville industrielle, à côté de Mézières, qui est également une ville très sombre, une ville d'épiciers. Et il faudrait mettre après deux photos ovales, jaunies, vous savez, celle de Madame Rimbaud et celle du capitaine Rimbaud. Il est vrai qu'on ne connaît pas, on n'a pas du tout de photos de Madame Rimbaud ni du capitaine Rimbaud, mais d'après tous les témoignages dont on dispose, on peut très bien brosser du moins quelque chose comme le portrait robot. Ce décor un peu balsacien est de la plus haute importance pour Arthur Rimbaud qui va naître à Charleville le 20 octobre 1854 à 6h du matin, rue Thiers, au premier étage, comme par hasard, d'une librairie, parce que le capitaine Rimbaud, qui était, je crois, du 47e régiment d'infanterie, et qui passait un jour à la place de la gare, au square de la gare, à la musique, il rencontre un jour donc Vitali Cuif, cette Ardennaise, et plusieurs enfants naîtront de cette union, à chaque fois du reste en tout cas que le capitaine Rimbaud aura une permission. Et c'est donc en 54 que naît Arthur, après son frère Frédéric et Vitali en 1860, et puis Isabelle un peu plus tard. Mais c'est déjà important de voir la constellation des dates seulement. Rimbaud, donc, est né en 1854, il est mort en 1891, mort à 37 ans. En fait, la vie de Rimbaud est extrêmement courte. Curieusement, elle est presque symétrique à celle de Mozart. Mozart était né en 1756 et il est mort en 1791. L'analogie, vous vous en doutez, ne s'arrête pas là. Les gens qui naîtront à cette époque, toute cette génération meurt en 1914, à peu près à la guerre de 14, notamment un certain docteur Freud, qui naît en 1856, d'ailleurs aussi le maréchal Pétain, qui naît en 1856, et le rapport s'arrêtera là, naturellement, pour Rimbaud. Donc, je suis à Charleville en 1854. On ne sait pas très bien ce qui se passe, mais Madame Rimbaud donc s'installe rue Napoléon, rue Thiers, avec sa petite famille, et elle est abandonnée par le capitaine Rimbaud. Alors la mère Rimbaud, c'est une personne qui avait très mauvaise presse, si on peut dire, dans les Ardennes de l'époque. Elle était, je dirais tout simplement qu'elle était ardennaise, sans craindre le pléonasme, parce que personnage carré, un peu homasse, vous voyez, viriloïde. Et elle était tout entière dans l'amour du travail, dans l'esprit d'économie, de très solides principes religieux et sans doute un goût inné pour l'autorité. Par exemple, il y a les souvenirs de Louis Pierre Quint, qui était un ami un peu tardif de Rimbaud, je crois, 1870, quand ils étaient donc à la fin de l'école, au lycée de Charleville. Et Louis Pierre Quint voyait Rimbaud et son frère traverser la place du Cal. Vous savez, la place du Cal est la place principale de Charleville, c'était une réplique de la place des Vosges. Et on voyait passer la famille Rimbaud avec les deux garçons devant, les deux filles derrière, et Madame Rimbaud fermant la marche. Louis Pierre Quint comparait ça à une oie qui suivrait sa famille. En tout cas, c'est une image symbolique qui donne assez bien l'impression de ce que pouvait être le ménage Rimbaud, une vie finalement paramilitaire en somme. Et l'absence du père joue un rôle probablement très important chez Rimbaud. Donc Rimbaud répond parfaitement à l'attente et aux ambitions de sa mère en étant tout simplement un élève modèle. Et lorsque sa mère le met à l'institution Rossa, qui était une institution privée à Charleville à l'époque, Rimbaud d'emblée devient en somme le petit génie de sa province. Une date importante, c'est Pâques 1866. Madame Rimbaud et sa famille font un déménagement et se trouvent au 5 bis quai de la Madeleine, qui est aujourd'hui d'ailleurs le quai Arthur Rimbaud. Et Rimbaud devient particulièrement fort en thème. Il a tous les prix de l'école, il passe d'une classe à l'autre alors que son frère redouble. Et il inquiète presque ses professeurs. Le vieux professeur à Lorgnon, là, Monsieur Perrette, disait qu'il était intelligent tant que vous voudrez, mais il finira mal. Il n'en reste pas moins que Charleville, à l'époque, c'est l'hypnose. Et Rimbaud ressent ça très douloureusement. Il a déjà quelque chose comme une vision politique. Un camarade qui lui demande ce qu'il pense de Napoléon III, il répond bruyamment « Napoléon III mérite les galères ». Il n'empêche que quelques mois plus tard, il écrit au prince impérial, à l'occasion de sa première communion, ça doit être en mai 1868, et il lui envoie une suite de vers latins. Il recevra d'ailleurs une récompense, tout ce qui est le plus officiel, mais il a un peu copié, il faut dire, Jugurtha. On l'a retrouvé plus tard. En tout cas, c'est un virtuose du vers latin. Il en écrit pratiquement sans les compter. Et il commence à s'intéresser à la poésie, ou en tout cas à ce que Charleville peut connaître de la poésie, notamment les livraisons du Parnasse contemporain, qui était à l'époque la livraison importante de poésie. À l'institution Rossa, vers 1868, arrivent des séminaires, et la classe se remplit pour moitié de séminaristes que Rimbaud n'aura cesse de persécuter. Il voulait absolument battre les soutanes, alors il redouble d'ardeur, et compose d'autres vers latins, en français également d'ailleurs, dont quelques-uns sont publiés pour la première fois dans le Moniteur de l'enseignement secondaire. Mais les concours académiques, pour l'instant, on peut dire qu'il les rafle tous, et en 1869, donc à la distribution des prix, Rimbaud remporte un triomphe jamais égalé, il remporte les 9 premiers prix. C'est à cette période qu'un jeune professeur est nommé au lycée de Charleville, où Rimbaud fait maintenant ses études, et ce jeune professeur, c'est Georges Isambard. C'est un jeune professeur de rhétorique, et je crois qu'on ne peut pas voir le rapport de Rimbaud de façon seulement anecdotique. Vous voyez, il rencontre, comme on lit dans ses biographies, Isambard, et on a tous bien évidemment un professeur important de français dans sa vie, mais je crois que c'est tout simplement le père. En ceci que Rimbaud a une permanente demande de lecture. Évidemment, à Charleville, à cette époque, il y a une pénurie totale de littérature, et Rimbaud dévorait les livres. Mais Isambard a été le premier qui puisse répondre à cette demande. Je crois que c'est important parce que c'est la façon dont naît un rapport qui n'est pas seulement d'alimentation littéraire. Donc Rimbaud accompagne Isambard et conçoit à son égard une véritable vénération. C'est à lui en tout cas qu'il destine ses premiers vers. Et Isambard les reçoit, les corrige, il propose même d'ailleurs des amendements parfois consternants. De sorte qu'Isambard, en lui prêtant un jour un livre de Victor Hugo, reçoit une lettre de sa mère, de Madame Rimbaud, qui avait surpris ce livre de Victor Hugo, c'était Les Misérables. Là, il y a manifestement une rivalité symbolique entre la mère réelle et le père symbolique. Madame Rimbaud, donc intégrant les valeurs de la province au Second Empire, se fâche et envoie à Isambard une lettre assez savoureuse.
4 mai 1870. Monsieur, je vous suis, on ne peut plus, reconnaissante de tout ce que vous faites pour Arthur. Vous lui prodiguez vos conseils, vous lui faites faire des devoirs en dehors de la classe, c'est autant de soins auxquels nous n'avons aucun droit. Mais il est une chose que je ne saurais approuver, par exemple la lecture du livre comme celui que vous lui avez donné il y a quelques jours, Les Misérables de Victor Hugo. Vous devez savoir mieux que moi, monsieur le professeur, qu'il faut beaucoup de soins dans le choix des livres qu'on veut mettre dans les yeux des enfants. Aussi j'ai pensé qu'Arthur s'est procuré celui-ci à votre insu, il serait certainement dangereux de lui permettre de parler lecture. J'ai l'honneur, monsieur, de vous présenter mes respects. Veuve Rimbaud.
Ver erat, et morbo Romae languebat inerti orbilius. C'était le printemps. Et Orbilius souffrait à Rome d'une maladie qui l'empêchait de bouger. Diri tacuerunt tela magistri, plagarumque senus non jam veniebat ad aures. Les armes d'un professeur impitoyable firent trêve. Le bruit des coups ne sonnait plus à mes oreilles. Nec ferula assiduo cruciabat membra dolore. Et la férule ne tourmentait plus mes membres d'une douleur continue.
Le jeune écolier qui trace en une heure 60 hexamètres dactyliques, impeccable, magnifique, se reconnaît poète parce qu'il y a des colombes qui viennent le désigner alors qu'il est allongé au bord d'un fleuve et lui apportent une couronne en disant « Tu vates eris, tu seras poète ». Ce n'est pas de sa faute, il est désigné pour être plus, en étant plus sensible, avec la mission d'accomplir cette poésie, c'est-à-dire de la rendre réelle. Et la rendre réelle, ça serait se débarrasser d'abord de la poésie, dans ses formes anciennes, mais aussi de la réaliser.
Jean Chevrier, 1957.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne vous montent à la tête, on divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté pâle d'un réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres, alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux. Vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
Charleville, Ardennes.
Jacques Bonafé.
24 mai 1870. À Monsieur Théodore de Banville. Cher maître, nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans. L'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi, j'appelle cela du printemps. Dans 2 ans, dans 1 an, peut-être, je serai à Paris. Anche io, messieurs du journal, je serai parnassien. Je ne sais ce que j'ai là qui veut monter. Je jure, cher maître, d'adorer toujours les deux déesses, muse et liberté. Je ne suis pas connu, qu'importe. Les poètes sont frères, ces vers croient, ils aiment, ils espèrent, c'est tout. Cher maître à moi, levez-moi un peu, je suis jeune, tendez-moi la main. Arthur Rimbaud. Monsieur Isambard, Charleville, 25 août 1870. Monsieur, vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville. Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province. Sur cela, voyez-vous, je n'ai plus d'illusions. Parce qu'elle est à côté de Mézières, une ville qu'on ne trouve pas. Parce qu'elle voit pérégriner dans ses rues 200 ou 300 de piou-piou, cette benoîte population gesticule prudomesquement spadassine, bien autrement que les assiégés de Metz et de Strasbourg. C'est effrayant, les épiciers retraités qui revêtent l'uniforme. C'est épatant comme ça du chien, les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers, et tous les ventres qui chassent peau au cœur font du patriotisme aux portes de Mézières. Ma patrie se lève. Moi, j'aime mieux la voir assise. Ne remuez pas les bottes, c'est mon principe. Je suis dépaysé, malade, furieux, bête, renversé. J'espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des aventures, des bohémienneries, enfin. J'espérais surtout des journaux, des livres. Rien. Rien.
Rien. Le courrier n'envoie plus rien aux libraires. Paris se moque de nous joliment. pas un seul livre nouveau. C'est la mort. Me voilà réduit en fait de journaux à l'honorable courrier des Ardennes. Propriétaire, gérant, directeur, rédacteur en chef et rédacteur unique à Pouillard. Ce journal résume les aspirations, les vœux, les opinions de la population. Ainsi jugé, c'est du propre. On est exilé dans sa patrie.
Monsieur Isambard, à Douai. Paris, 5 septembre 1870. Cher monsieur, ce que vous me conseillez de ne pas faire, je l'ai fait. Je suis allé à Paris quittant la maison maternelle. J'ai fait ce tour le 29 août. Arrêté en descendant de wagon pour n'avoir pas un sou et d'avoir 13 francs de chemin de fer, je fus conduit à la préfecture et aujourd'hui j'attends mon jugement à Mazas. Oh. J'espère en vous comme en ma mère, vous m'avez toujours été comme un frère. Je vous demande instamment cette aide que vous m'offrites. Faites tout ce que vous pourrez. Et quand vous recevrez cette lettre, écrivez vous aussi, je vous l'ordonne, oui, écrivez à ma pauvre mère pour la consoler. Écrivez-moi aussi, faites tout. Je vous aime comme un frère, je vous aimerai comme un père. Je vous serre la main. Votre pauvre Arthur Rimbaud, détenu à Mazas. Charleville, le 2 novembre 1870. À Georges Isambard, Douai. Monsieur, à vous seul ceci. Je suis rentré à Charleville un jour après vous avoir quitté. Ma mère m'a reçu et je suis là tout à fait oisif. Ma mère ne me mettrait en pension qu'en janvier 71. Eh bien, j'ai tenu ma promesse. Je meurs. Je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille. Que voulez-vous, je m'entête affreusement à adorer la liberté libre et un tas de choses que ça fait pitié, n'est-ce pas? Ce sans-cœur de Rimbaud. Guerre? Pas de siège de Mézières. Pour quand? On n'en parle pas. J'ai fait votre commission à monsieur de Verrières et s'il faut faire plus, je ferai. Par-ci, par-là des francs-tirades. Abominable prurigo d'idiotisme, tel est l'esprit de la population. On en entend de belles, allez. C'est dissolvant. Charleville, 13 mai 1871, à Georges Isambard, à Douai. Cher monsieur, vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants. Vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi, je suis le principe. Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège tout ce que je puis inventer de bêtes, de sales, de mauvais en action et en parole. Je le leur livre. On me paie en boc et en fille. Stat mater dolorosa dum pedet filius. Je me dois à la société, c'est juste. Et j'ai raison. Voici, vous avez raison pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective. Votre obstination à regagner le râtelier universitaire, pardon, le prouve. Mais vous finirez toujours comme insatisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose, je verrai dans votre principe la poésie objective. Je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travaillez maintenant jamais, jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes. Il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon et nargos inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Vous n'êtes pas enseignant pour moi, je vous donne ceci. Est-ce de la satire, comme vous diriez? Est-ce de la poésie? C'est de la fantaisie, toujours. Mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée. Le cœur supplicié. Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ça ne veut pas rien dire. Répondez-moi chez Monsieur De Verrières pour A.R. Bonjour de cœur, Arthur Rimbaud. Charleville, 15 août 1871. À Monsieur Théodore de Banville. Monsieur et cher maître, vous rappelez-vous avoir reçu de province en juin 1870 100 ou 150 hexamètres mythologiques intitulés Credo in unam? Vous fûtes assez bon pour répondre. C'est le même imbécile qui vous envoie les vers ci-dessus, signés Alcide Bava, pardon. J'ai 18 ans, j'aimerais toujours les vers de Banville. L'an passé, je n'avais que 17 ans, ai-je progressé? Alcide Bava.
C'est en 1982 qu'Agnès Rosenstiel, Jacques Duchâteau, Hubert Juin et Gilbert Lascaux s'entretiennent sur le poème « Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs ».
Il s'agit du, pas du premier, mais du second poème de Rimbaud, « Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs », poème que Rimbaud envoya à Théodore de Banville, après lui avoir envoyé d'ailleurs le premier. Il l'envoie avec une lettre dans laquelle il ment, car il dit qu'il a 18 ans. Or, en fait, il n'a pas 18 ans, il en a 17, enfin à peine 17.
Il est jeune, il a 17 ans. Il veut se vieillir, probablement. Il a l'idée de, même on en a eu, persuadé, il a l'idée de se faire publier à tout prix. Et pour lui, la publication, c'est le Parnasse. Mmh. Passer dans la revue Le Parnasse contemporain, c'est arriver à se glisser entre Verlaine, Mérat, Baudelaire, ses grandes admirations. Et il a même dit à Banville l'année précédente, « Je suis jeune, aidez-moi, donnez-moi la main. Mmh. » Et une année plus tard, il récidive. Hélas, il ne sera toujours pas publié dans Le Parnasse, d'ailleurs.
Il dit aussi de façon charmante, j'ai 18 ans, j'aimerais toujours les vers de Banville. L'an passé, je n'avais que 17 ans. Ai-je progressé?
Oui, d'une manière charmante, enfin c'est peut-être un petit peu insolent.
Il est charmant d'apparence. En fait,